Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 8 août 2017. En direct de Washington, Idrissa Sejudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Élection générale aujourd'hui au Kenya. Appel à la paix du président Uhuru Kenyatta qui fait encore face à son rival Raila Odinga.
En Afrique du Sud, vote à bulletin secret aujourd'hui au Parlement sur une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma.
L'ONU avertit que des signes avant-coureurs de génocide émergent en République centrafricaine.
En République démocratique du Congo, des violences hier à Kinshasa ont coûté la vie à 12 personnes.
Au Tchad, arrestation hier d'un militant soutenant le détenu Laoken Médard, l'ex-maire de Mundu.
La Corée du Nord qualifie d'atteinte flagrante à sa souveraineté les dernières sanctions de l'ONU.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les Kenyans ont commencé à voter ce matin pour choisir un nouveau président à l'occasion d'un scrutin tendu et indécis. La présidentielle oppose deux adversaires de longue date, le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, et le chef de l'opposition, Raila Odinga. Le point avec Solange Nyamulisa.
Environ 19 millions de Kenyans doivent choisir leur président, gouverneur, sénateur, député et élu locaux. Hier, le président Uhuru Kenyatta a appelé les Kenyans à se déplacer massivement pour voter dans la paix. Son principal adversaire, Raila Odinga, trois fois candidat malheureux à la présidentielle, a lui aussi appelé les électeurs à se présenter en grand nombre. Il a assuré que le déploiement de plus de 150 000 membres des forces de sécurité a pour but d'intimider les électeurs. L'ancien président américain Barack Obama, dont le père est né au Kenya, a lui aussi appelé les Kenyans à œuvrer pour des élections pacifiques et crédibles. La campagne a été marquée par l'assassinat d'un responsable informatique de la commission électorale et de nouvelles accusations de fraude de la part de l'opposition. Ce qui fait craindre de troubles. En 2007, les violences post-électorales avaient fait plus de 1000 morts.
En Afrique du Sud, le Parlement se prononce aujourd'hui sur une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma. Cette fois-ci, l'opposition espère que le vote à bulletin secret va encourager des députés de l'ANC à lâcher le chef de l'État sud-africain. Le point avec Morgane Guériec.
La présidente du Parlement, Baleka Mbete, a annoncé hier que le vote se fera à bulletin secret. L'opposition est convaincue de pouvoir retourner des députés de l'ANC si ces derniers ne subissent pas la pression d'un vote à main levée. La motion de défiance pour passer doit recueillir la majorité simple à 201 voix sur les 400 au Parlement. Forte de sa confortable majorité de 249 sièges, l'ANC s'est empressée d'assurer qu'il n'y a aucun doute sur l'échec de cette mesure. Le Parti communiste allié de l'ANC a réitéré son appel à la démission du président Zuma, sans pour autant donner de consigne de vote. Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, a déjà survécu à trois motions de défiance. En décembre prochain, l'ANC doit élire son successeur à la tête du parti. Parmi les favoris, l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, qui bénéficie du soutien de son ex-mari.
Des signes avant-coureurs de génocide émergent en Centrafrique où les violences redoublent, a estimé lundi le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien. Il a réclamé davantage de militaires et de policiers pour l'opération de paix des Nations Unies en République centrafricaine. Quelques 180 000 personnes ont quitté cette année leur domicile dans ce pays, portant à plus d'un demi-million le nombre de déplacés, a ajouté M. O'Brien, qui rendait compte lors d'une réunion hier à l'ONU de récents voyages en Centrafrique et en République démocratique du Congo.
La République démocratique du Congo, qui a connu une éruption de violence avec 12 personnes tuées par des balles perdues hier à Kinshasa, à la veille du lancement d'une série de mobilisations de l'opposition contre le chef de l'État. La police accuse une secte politico-religieuse, Bundudia Mayala, opposée au président Joseph Kabila. Selon elle, des assaillants armés de fusils de chasse et d'armes blanches s'en sont pris aux forces de l'ordre dans plusieurs des 24 communes de la capitale congolaise.
Au Mali, les djihadistes qui sévissent dans la région de Mopti ont mis un terme à la célébration d'un mariage dans la commune de Diafarabé et pris en otage des femmes. Selon notre correspondant Kassim Traoré, ces terroristes ne veulent plus de mariage célébré avec faste, musique ou autres réjouissances populaires.
Le week-end passé, un notable de Diafarabé célébrait le mariage de sa fille. Aux environs de 17h, une dizaine de djihadistes lourdement armés ont fait éruption dans sa famille, tirant des coups de feu en l'air. Pris de panique, les femmes et les enfants se trouvant sur les lieux ont pris la tangente pour ceux qui n'étaient pas hypnotisés de peur. Les terroristes ont détruit à coups de Kalachnikov tous les matériels qui servaient d'animation et de sonorisation. Ils ont saccagé la cuisine et ont emporté tout ce qu'ils avaient comme nourriture. Les minutes qui ont suivi, les terroristes ont continué à tirer en l'air en obligeant les commerçants qui sont dans les alentours à sortir de leur boutique pour venir écouter leur speech improvisé pour la circonstance. Dans leur intervention, ils ont condamné toute célébration de mariage en pompe, car cela, d'après eux, est contraire à l'islam. Après quelques échanges, les populations de Diafarabé sont parvenues à les supplier de libérer les femmes qu'ils avaient prises en otage. Mais les Kidam ont juré de revenir bientôt pour vérifier que leurs instructions sont respectées et punir les éventuels récalcitrants en appliquant tout simplement la charia. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, un militant soutenant la Hocken Médard a été arrêté hier. Samedi, le chef d'un parti d'opposition tchadien, Mahamat Adoum, a été arrêté avant d'être libéré dimanche. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La police a mis aux arrêts à Moundou le militant Bruno Gelkor. Il imprimait depuis une semaine des t-shirts où c'est marqué, je cite, « Collectif soutenant la Hocken, libérez-le ». Dimanche, Mahamat Adoum a été relâché par le procureur qui lui a dit qu'il n'y avait pas de charge retenue contre lui. Il avait été arrêté samedi à Moundou lors d'une altercation entre la police et une délégation de chefs de parti d'opposition venus soutenir l'ex-candidat à l'élection présidentielle et ex-maire de Moundou, la Hocken Médard. Ce dernier a été arrêté le 13 juillet et mis en examen le 17 pour détournement de biens et complicité. Il est actuellement détenu à la prison de Moundou. Arrivé en troisième position à la dernière présidentielle d'avril 2016, la Hocken Médard a été destitué de son poste de maire fin juin par le conseil municipal de Moundou.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord a juré hier de persister dans son programme de développement d'armes nucléaires, rejetant les appels de la communauté internationale pour un arrêt de ses actions militaires agressives. La mission de Pyongyang aux Nations Unies a soutenu que les nouvelles sanctions prises par les Nations Unies en riposte à ces tests de missiles balistiques constituent une violation flagrante de la souveraineté de la Corée du Nord. S'adressant à une conférence sur la sécurité régionale à Manille aux Philippines, des officiels nord-coréens ont souligné qu'ils ne renonceront jamais à leur programme nucléaire ou de missiles et que Pyongyang donnera aux États-Unis une leçon sévère avec sa force stratégique nucléaire si Washington venait à intervenir militairement contre la Corée du Nord.
Au Pakistan, au moins 34 personnes ont été blessées lundi soir dans l'explosion d'un camion piégé dans la ville de Lahore. Selon les autorités locales, les explosifs se trouvaient dans un camion chargé de fruits. La plupart des victimes sont des passants, a ajouté un porte-parole. La dernière attaque d'ampleur à Lahore, un attentat suicide, avait fait 26 morts fin juillet.
Au Venezuela, les autorités traquaient toujours hier les auteurs présumés de ce qu'elles ont appelé l'attaque terroriste contre une base militaire à Valencia, dans le nord. Elles ont tenté simultanément de rassurer sur l'unité de l'armée afin d'éviter une contagion dans les rangs. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Nathalie Barge.
Ouverture à Lomé, au Togo, du Forum de coopération commerciale et économique entre les États-Unis et l'Afrique. Le Forum de l'AGOA sera centré sur le secteur privé et la société civile. Agriculture et technologie, infrastructure, intégration régionale, politique et réforme commerciale sont quelques-uns des thèmes qui marqueront les travaux. Le prince milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal va investir plus de 800 millions de dollars dans des hôtels en Égypte, a annoncé lundi le ministère égyptien de l'investissement et de la coopération internationale. L'un des hôtels concernés sera notamment le Four Seasons de Sharm el-Sheikh, qui deviendrait le plus grand complexe hôtelier au monde, selon le ministère, indiquant que la réalisation des projets a été confiée au groupe égyptien Talat Mustafa. crise alimentaire, les États-Unis ont débloqué 169 millions de dollars pour le Kenya et l'Éthiopie, sévèrement touchés par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Selon le réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine, sans une aide immédiate et soutenue, la sous-alimentation pourrait atteindre des niveaux catastrophiques, surtout en Éthiopie, où plus de 136 millions de dollars seront destinés à soutenir les nombreuses victimes.
Présent les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le torchon brûle entre le Cameroun et la Confédération africaine de football.
Oui, le Cameroun qui crie à la conspiration pour cette CAN 2019. La Fédération camerounaise de football parle de changement unilatéral des règles du jeu dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations qui, vous le savez, se déroulera désormais à 24 équipes. Hier, dans un communiqué, le président de la FECAFOOT, Tombi Aroko, explique que son instance a appris par exemple avec consternation les récentes déclarations du président de la CAF. Au cours d'une visite à Ouagadougou ce week-end, le président Ahmad avait déclaré que même pour une CAN à 4 équipes, le Cameroun n'était pas prêt. Tombi Aroko se dit surpris ainsi que la mission d'inspection de la CAF arrive au Cameroun en août alors que le rendez-vous officiel était en septembre. Toujours selon le texte, on serait en droit de s'interroger sur l'opportunité même de cette visite d'inspection dès lors que les résultats semblent déjà arrêtés au niveau le plus élevé de la CAF. Soulignons qu'une demi-douzaine de pays, dont le Maroc et l'Algérie, ont annoncé être prêts à accueillir la compétition selon la CAF.
La CAF officialise le changement de formule pour les éliminatoires de la CAN 2019.
Et oui, à la suite de cette décision du comité exécutif de la CAF de passer de 16 à 24 le nombre de sélections qualifiées pour chaque Coupe d'Afrique des Nations, eh bien les deux premiers de chaque groupe en qualification seront à présent qualifiés pour la phase finale d'une CAN. Seul le groupe où évoluera le Cameroun, pays organisateur désigné, enverra un seul qualifié en phase finale.
Le Barça est plus grand que Neymar, selon son président.
Aucun joueur n'est au-dessus du Barça, y compris Neymar. C'est ce qu'a estimé hier le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, 4 jours après le transfert de l'attaquant brésilien au Paris Saint-Germain pour un montant record de 222 millions d'euros. La clause de cession de la star brésilienne aurait même atteint 250 millions s'il avait entamé la troisième année de son contrat.
Pour Wilfried Bonny, le prix est fixé.
Alors que le nom de l'attaquant international ivoirien de Manchester City est évoqué dans plusieurs clubs, les Citizens réclameraient un peu plus de 14 millions d'euros pour le lâcher selon les confrères du Sunday Mirror. Le natif de Bingerville serait notamment dans le viseur des dirigeants marseillais.
Real Madrid, Manchester United, belle affiche pour la Supercoupe d'Europe demain soir.
Le Real Madrid de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, double tenant de la Ligue des Champions, tentera de conserver également la Supercoupe d'Europe. Le coup d'envoi, c'est ce soir à Skopje en Macédoine et l'adversaire n'est autre que Manchester United de José Mourinho. Cristiano Ronaldo a été inclus dans le groupe du Real alors qu'il n'a repris l'entraînement que samedi, de retour de vacances prolongées après la Coupe des Confédérations en Russie où son équipe du Portugal, vous vous en souvenez, a fini troisième.
Mondiaux d'athlétisme à Londres.
Ce mardi, avant les dernières épreuves, l'Afrique est toujours sur le podium des médailles. Le Kenya deuxième avec 2 médailles d'or, 1 en argent et 2 de bronze. L'Éthiopie troisième avec 1 médaille d'or et 2 médailles d'argent. Les Américains sont premiers avec 9 médailles. Hier, les séries du 200 mètres ont souri à l'étoile sud-africaine Van Niekerk. Ça passe aussi pour l'Ivoirien Wilfried Kofi Oua, qualifié pour les demi-finales. Élimination en revanche du Congolais Kabongo Moulumba et du Togolais Fabrice Dabla. Qualification pour la finale du 400 mètres féminin de la Zambienne Kabange Mupopo. Et sur la finale du 1500 mètres, Faith Kipyegang est devenue la première Kenyane championne du monde de cette discipline. Championne olympique en titre, Faith Kipyegon a pris au passage sa revanche sur les mondiaux de Pékin il y a 2 ans. Elle n'avait rien pu faire face à Genzebe Dibaba, la grande favorite et tenante du titre, l'Éthiopienne qui est totalement passée à côté de sa course. Quant à l'Américaine Jennifer Simpson, deuxième en 4 minutes 2 secondes et 76 centièmes, elle est toute heureuse de finir sur le podium devant la Sud-Africaine Caster Semenya qui s'est adjugée la médaille de bronze. À suivre ce mardi, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou revient sur la piste avec les séries du 200 mètres. Et la finale du 400 mètres, le Sud-Africain Wade Van Niekerk, champion olympique et recordman du monde de la discipline. La finale du 800 mètres avec le Kenyan Kipyegon Bett. Enfin, en 3000 mètres steeple, le duel kenyan entre Ezekiel Kemboi et Conseilus Kipruto.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, insécurité croissante dans le pays. Hier, 12 personnes ont été tuées à Kinshasa dans des affrontements entre forces de sécurité et adeptes du mouvement politico-religieux Bunduja Mayala. Et puis, la situation demeure toujours inquiétante dans le Kasaï, le Katanga et le Kivu. Est-il possible, dans ce contexte, d'organiser des élections avant la fin de l'année, comme le souhaite la CENCO? Solange Niamoulissa a joint Joseph Mabanga, fondateur des Forces acquises au changement, membre du Rassemblement de l'opposition.
Le BDK, c'est un mouvement politico-religieux qui date de plusieurs dizaines d'années. Il parle, il prône la religion, je crois, des Noirs, et puis ils sont intéressés à la politique. Ça a commencé par revendiquer les droits du peuple Congo, parce que tous les régimes qui se sont succédés, que ce soit des Mobutu, que ce soit celui d'aujourd'hui, et donc tous les postes cités dans les entreprises publiques aux ressortissants de l'Est.
Il y a toujours des massacres dans le Kasaï. On signale des affrontements entre les Pygmées et les Bantous dans le Katanga, sans parler de l'insécurité constante dans le Kivu. Est-ce que vous pensez que les élections sont possibles avant la fin de l'année, comme le souhaite la CENCO?
Pas comme le souhaite la CENCO, mais comme le souhaite le peuple congolais. En janvier 2015, le peuple avait manifesté lorsque le pouvoir de Kinshasa voulait modifier la loi électorale pour conditionner les élections à un recensement. Et donc c'est le peuple qui veut les élections, parce que le peuple congolais en a marre avec la mauvaise gouvernance, avec le tribalisme, le népotisme, avec le pillage des ressources. Maintenant, est-ce que c'est possible les élections? Oui, c'est possible, parce que il suffit que notre frère Joseph Kabila accepte et donc l'élection, ça se fera.
Le 8 août, l'opposition appelle à des manifestations. Est-ce que c'est maintenu?
L'opposition n'a pas appelé à manifester. L'opposition a demandé que le peuple reste à la maison pour protester contre la mauvaise volonté et refus de notre Kabila d'organiser les élections. Et donc, c'est maintenu le 2 journée ville morte. C'est une expression pacifique parce que nous ne sommes pas encore convaincus qu'il y aura élection. Donc, c'est maintenu. Nous pensons que le peuple congolais va répondre massivement sans casser parce que nous prenons la non-violence. Rester à la maison pour manifester le mécontentement.
Joseph Mabanga, fondateur des Forces acquises au changement, membre du Rassemblement de l'opposition.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, le mouvement patriotique du salut au pouvoir célèbre aujourd'hui l'an 1 de l'investiture pour un cinquième mandat de son président fondateur Idriss Déby Itno. Arrivé au pouvoir par coup de force en 1990, Idriss Déby Itno a été réélu pour la cinquième fois consécutive en avril 2016. Notre correspondant André Kodma-Djingar nous parle des réactions des Tchadiens au cinquième quinquennat du président Déby.
Réélu en avril 2016 à l'issue d'une élection présidentielle fortement contestée par 6 partis politiques de l'opposition en compétition, Idriss Déby Itno a été investi le 8 août 2016 sur fond de crise socio-économique et politique pour un mandat de 5 ans. Idriss Déby Itno a, dès l'entame de son nouveau quinquennat, fait une promesse à la jeunesse tchadienne désœuvrée d'une opportunité d'emploi.
Jeunesse tchadienne, je mesure pleinement l'ampleur de vos attentes. Je comprends les angoisses et les incertitudes qui vous habitent. Mais j'ai surtout foi en notre capacité commune à briser toutes les entraves à l'accomplissement de nos ambitions partagées. En retour, vous pouvez avoir foi en ma détermination résolue à apporter les réponses appropriées aux préoccupations qui vous animent et qui m'engagent. Vous offrir une éducation et une formation de qualité, l'entrepreneuriat des jeunes sera développé et l'accès à l'emploi, tant public que privé, continuera d'être soutenu.
Trois semaines seulement après cet engagement devant les autres chefs d'État africains et les diplomates accrédités au Tchad, la foi du président Déby a volé en éclats. Car au cours d'un conseil des ministres le 31 août 2016, il a été décidé, dans les 16 mesures d'austérité, de revoir les critères d'attribution des bourses des étudiants de l'intérieur. Mais l'on est passé finalement à la suppression pure et simple de cette bourse d'études. Les lauréats de différentes écoles professionnelles en instance d'intégration prennent au mot le chef de l'État.
Monsieur le Président n'est pas un vulgaire d'homme, donc il doit honorer quand même sa parole. Ça fait 25 ans qu'il nous tient toujours de pareils propos. Mais au terrain, on ne voit rien. Est-ce que ça vient de lui ou ses collaborateurs, ceux qui sont tout autour de lui, qui sont vraiment le mot de nos problèmes?
Dans le secteur privé, il y a une précarité de l'emploi. L'entrepreneuriat qui pouvait donner le souffle à la jeunesse tchadienne, nous assistons aujourd'hui à l'effondrement de ces institutions d'octroi de crédit. Nous avons frappé à plusieurs portes. Même le chef du gouvernement refuse d'écouter les jeunes diplômés, ce qui est vraiment écœurant.
Pour le chef de l'opposition politique Saleh Kebzabo, il serait difficile d'évaluer l'an de débit dont il conteste toujours la victoire.
Nous continuons de dire qu'il s'agit d'un hold-up électoral. En dehors de quelques Tchadiens privilégiés qui font peut-être partie de la famille présidentielle, qui eux n'ont pas de problème, mais la jeunesse, elle est désœuvrée, elle est abandonnée. Partout où il a fait des promesses, c'est l'échec le plus total.
André Kotumadjingar Ndjamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Niger, on est toujours sans nouvelles des 39 personnes, des 33 femmes, enlevées par Boko Haram au début du mois de juillet dernier dans un village de Diffa, région où la situation humanitaire inquiète les autorités et leurs partenaires. En visite récemment dans la zone, des responsables du HCR ont lancé des appels demandant des fonds pour venir en aide aux populations. De Niamey, reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Au début de l'année 2017, l'État nigérien et ses partenaires ont élaboré un plan global de réponse humanitaire qui a mis un accent particulier sur la région de Diffa, victime des attaques répétées de la secte Boko Haram. La mise en œuvre de ce plan bute cependant sur les difficultés de financement, notamment Mohamed Lawa Magaji, ministre de l'Action humanitaire.
Le plan de réponse humanitaire a prévu à peu près 271 millions de dollars pour l'année 2017. Dans ces 271 millions, la région de Diffa a à peu près 140 millions de dollars qui étaient prévus pour l'année 2017 et les partenaires humanitaires, la communauté humanitaire a mobilisé à la date d'aujourd'hui à peu près 31% de ce montant-là. Donc c'est dire qu'effectivement il y a beaucoup qui reste à faire en ce qui concerne donc la région de Diffa pour pouvoir venir en appui, et c'est pourquoi nous lançons en tout cas un appel à tous les partenaires au développement, les humanitaires qui aident les autres humanitaires qui interviennent au Niger, de voir dans quelle mesure renforcer cela.
En charge du volet protection des réfugiés dans le cadre de ce plan, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés semble être le plus confronté aux difficultés dans la mobilisation des fonds pour assister ces populations. Une délégation de haut niveau de l'organisme a été récemment sur le terrain pour s'enquérir des conditions de vie des dites populations. Valentin Topsoba est le directeur du Bureau Afrique du HCR.
En ce qui concerne le groupe de réfugiés nigériens qui sont basés essentiellement à Diffa, nous avons à peu près 250 000 personnes sur un budget de 86 millions de dollars que nous avons besoin pour 2017 pour venir en aide à ces populations. Nous n'avons que 33 millions, mais ces 33 millions n'ont même pas encore été bouclés. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons même pas 50% du budget pour pouvoir faire face à tous ces problèmes-là. On a déjà dépassé les 6 mois de l'année et on ne sait pas comment on va faire vraiment pour joindre les deux bouts du mois.
Un plaidoyer appuyé par les autorités nigériennes, surtout du fait de la nouvelle démarche du HCR dans la prise en charge des réfugiés, estime le ministre de l'Action humanitaire du Niger.
Le HCR a une démarche aujourd'hui qui est celle d'intégrer les réfugiés et les populations hôtes qui sont elles-mêmes en déplacement pour tenir compte plutôt de la vulnérabilité que du statut de la personne pour lui donner un appui. Donc par rapport à ça, on peut dire que beaucoup reste aussi effectivement à chercher pour cette institution-là.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger.
sur le 102.5 FM 24h sur 24.
Lancement aujourd'hui à Lomé du Forum 2017 de l'AGOA, cette loi américaine qui permet aux pays africains éligibles d'exporter sans droit de douane vers les États-Unis. La rencontre qui va durer jusqu'à jeudi verra la participation de ministres et hommes d'affaires de près de 40 pays. La délégation américaine est dirigée par le représentant au commerce international Robert Lighthizer. Idriss Fall a joint à Lomé Brian Newbert du département d'État américain.
Nous sommes à Lomé pour le forum AGOA, la loi pour la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Ce forum s'agit de la prospérité à travers le commerce. Il y a une forte délégation américaine qui est menée par M. Lighthizer. Lui, il est représentant des États-Unis pour le commerce extérieur. Il y aura une réunion interministériel des représentants d'une quarantaine de pays africains éligibles pour AGOA. Et à côté, ce qui est également important, il y aura quelques réunions de membres du secteur privé et de la société civile qui vont présenter leurs conclusions au ministre du forum.
Est-ce que les Africains profitent vraiment de l'AGOA? On disait que c'est Maurice qui en profite plus et peut-être des pays comme le Kenya.
En effet, les exportations hors pétrole sont 4,2 milliards de dollars. On peut faire de mieux? Ça c'est sûr, mais déjà ce chiffre montre que l'AGOA donne les opportunités aux Africains. Ça veut dire les entrepreneurs, les investisseurs, mais surtout c'est une question de créer des emplois. Il y a plusieurs secteurs qui sont intéressants. L'industrie d'habillement, bien sûr, vous mentionnez Maurice, mais il y a beaucoup d'autres pays, y compris ici, Togo, Kenya, Madagascar, le Sud-Sud, juste pour noter quelques-uns. Il y a le secteur décoration intérieure, il y a cosmétique, il y a plusieurs milliers de produits qui sont exportés aux États-Unis. Et l'objectif du forum cette semaine, c'est de faire augmenter ces chiffres.
Et le forum va durer jusqu'à quand?
Jusqu'à jeudi, il y a plusieurs réunions techniques pour faire certaines choses pour faciliter le commerce, pour améliorer l'infrastructure, agriculture, douane, des telles choses. Tout comme objectif pour essayer de créer des opportunités, à créer des emplois. Il y a des bénéfices aux États-Unis en même temps qu'il y a des bénéfices en Afrique.
Brian Newbert du département d'État américain.
Salut les amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.